toutes, bonjour à tous pour ces Tombées de la Nuit 2023. Canal B vous propose 4 émissions spéciales à retrouver mercredi, jeudi et vendredi de midi à 13h. Et vous les retrouverez aussi les Tombées de la Nuit samedi de 14h à 15h dans des émissions qui laisseront la part belle aux artistes invité par la nouvelle équipe de programmation des Tombées de la Nuit, dirigée par Morgane Le Gallic. Bien sûr, quelques-uns des artistes de cette programmation 2023 ont été invités par Claude Guinard, ancien directeur du festival. Aujourd'hui, nous pourrons retrouver un reportage d'Elvire qu'elle avait réalisé pendant le festival Waterproof, où elle interviewait les deux membres de la compagnie de danse Rohari, à retrouver quatre reprise cette semaine, mercredi avec le spectacle Barès à 13h, ça sera au Tiana Place Sainte-Anne, et puis jeudi avec Distro, ça sera cette fois-ci en extérieur, Place Sainte-Anne toujours, et puis vous retrouverez Tsef Zone, ce sera vendredi, cette fois-ci Place Saint-Germain. Avant de retrouver la compagnie Rohari, on parlera avec un des membres du studio Superbe. J'ai nommé le directeur artistique Gaëtan Libertio à propos de cette nouvelle proposition qu'ils amènent au Tombé de la Nuit, Wall of Fame, où il sera question de mélanger le chant lyrique avec l'intelligence artificielle. Et puis on va commencer directement dans quelques secondes avec notre premier invité, l'artiste plasticien Johnny Le Bigot, qui lui est présent toute cette semaine, de mercredi jusqu'à samedi, dans le hall de l'hôtel Pasteur, pour vous faire découvrir l'installation Quand ça ne finit jamais, où ça commence, c'est de mercredi jusqu'à samedi à l'hôtel Pasteur. Je le répète, toutes les infos vous les retrouverez sur lestombeesdelanuit.com. On retrouve Johnny Le Bigot dans quelques secondes après ce titre, Le Brin d'herbe, par Brigitte Fontaine, sur l'album Vous et nous.
Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir, je t'aimerai toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.
Quand ça ne finit jamais, où ça commence. On va parler avec Johnny Le Bigot maintenant, que vous allez pouvoir retrouver ici à l'hôtel Pasteur. Je suis arrivé voir Johnny avant que l'installation soit finie. D'ailleurs, elle ne sera peut-être jamais finie, allez savoir. Une installation en forme de... je ne sais pas, d'ascenseur vers le beau, vers la poésie, vers l'extérieur aussi, vers la nature. Parce que même si ce qu'on voit ici a vécu une meilleure vie peut-être avant, eh ben c'est pas la fin de la vie pour autant. Ces objets qu'on a ici dans le hall, depuis combien de temps exactement vous avez commencé à les rassembler, à les collecter?
Alors là, les collectes d'ici, des pièces présentes ici, ça doit... je dirais sur une période de 2010 à 2023, sachant qu'il y a quand même pas mal d'éléments de 2023, mais là je vois un élément, par exemple une écorce d'eucalyptus, elle est de 2018 par exemple. Les ailes de mouette, elles sont de 2021. Que puis-je vous dire d'autre, le Sophora du Japon 2020, l'hiver 2020, etc., etc.
Pour autant, vous avez commencé à collecter bien avant 2010, je suppose.
Les collectes, à proprement parler, on dira depuis 2003, à peu près depuis une vingtaine d'années. Sachant que là, j'ai ramené, vous verrez plus tard, un bout de mon atelier, en fait. On dira un petit pourcent de matière minérale, végétale, animale, champignons. Il y a même un blob.
On le comprend dans le titre, quand ça ne finit jamais, où ça commence, qu'il y a une idée de faire continuer les choses, en fait. Est-ce que c'est parce que vous avez décidé que ces bouts d'arbres, ces bouts d'animaux qu'on trouve dans la nature, méritaient d'être vivants plus longtemps encore ?
Oui, il y a cette question d'être vivant plus longtemps. C'est un peu une quête perpétuelle pour chacun. Souvent, on envie les arbres, d'ailleurs, ou d'autres. Je travaille beaucoup, en fait, sur la question, en même temps, de la vanité. Donc du fait de se rappeler que ça peut ne pas durer très longtemps. Et c'est comme un contrebalancement. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois la mort venue, que se passe-t-il ? Pas de réponse. Et une façon de rêver peut-être avec ça et pas être dans une peur de ça.
On voit pour l'instant, là où je suis moi, les débuts de quelque chose, en tout cas. On se doute bien que le hall et puis toute la cage d'escalier de l'hôtel Pasteur va changer de forme, va devenir vivante quasiment. Il n'y a pas assez de poésie dans le monde en général et ça vous permet d'en rajouter un peu.
C'est étonnant, étant pasteur, puisqu'il y a une école maternelle et... en étant avec les enfants, notamment tout à l'heure aussi, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir sauté la, n'être pas parti de la classe de grande section, au moins de grande section. Donc voilà, il y a plutôt un rapport à l'enfance en fait. Je ne sais pas si j'ai une volonté de poétiser le monde. En fait, il y a un rapport à l'enfance qui me rattrape sans cesse, et peut-être que l'enfance est poétique.
Vous intervenez en tant que résident assez régulièrement au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye. Évidemment, les enfants qu'on voit autour ici, quand ils sont encore en classe, qui est encore le cas pour cette semaine, ils sont un peu plus jeunes que ceux que vous croisez d'habitude. Mais qu'est-ce que vous apprenez aussi aux côtés de ces étudiants en lycée agricole et horticole ?
Alors, de fait, il y a cet agro-campus hein, qui vend de jeunes de 15 ans, puisqu'il y a aussi un centre de formation d'apprentissage, un CFA à l'intérieur de... C'est un lycée technique, lycée professionnel, lycée général, centre de formation pour adultes et CFA. Mais par ailleurs, je travaille aussi avec des tout-petits, des classes, et jusqu'au maternel. Je dis, je travaille avec des enfants. En fait, c'est des va-et-vient. À chaque fois qu'on travaille avec soit des ados ou des jeunes, ou même des adultes, parce qu'on est chacun dans des territoires différents. L'histoire du... Ce qui me préoccupe, c'est cette question du regard. Qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête à un moment, qu'on porte les yeux quelque part, qu'on porte l'attention ? Et cette question de porter l'attention, en fait... cette question de parcours, d'âge, modifie beaucoup. Et comme j'ai l'impression de m'imprégner constamment, en effet, je vais être très influencé par des présences, par des regards donnés. Et le travail va prendre forme autrement selon où je travaille, où je sois à côtoyer des enfants de maternelle ou des enfants de lycée, par exemple.
Vous avez parlé de quelques-uns des éléments qui vont constituer ce que vous verrez dans le hall de Pasteur. Tout ça va pas rester identique du début à la fin. Et même pendant les moments où les gens vont pouvoir peut-être venir se frotter à quand ça ne finit jamais, où ça commence, eh bien, ils pourront eux-mêmes activer quelques parties de cet immense décor ou pas tout à fait tout seul.
Alors, pas tout à fait tout seul. C'est-à-dire que je donne les guides, ils peuvent activer, hein. Mais il y a tout un tas de protocoles, de suite de protocoles. Tout comme l'installation va continuer à fleurir, ou en tout cas à se nourrir, avec en effet la participation des visiteurs, mais que je vais inviter à choisir, par exemple, des éléments que je vais aller accrocher ici et là. On va gagner les hauteurs petit à petit, en fait. Comme vous verrez, il y a une certaine fragilité, qui est relative d'ailleurs. Donc il y a pas mal de précautions, d'où le fait que les choses ne sont pas en accès libre, mais en tous les cas, les gens effectivement se retrouvent à manipuler. Être, on dira, souvent marionnettiste et marionnette en même temps.
Avant qu'on aille voir un peu plus haut, même si pour l'instant il n'y a pas encore grand chose à voir, mais vous allez savoir que Johnny Le Bigot a des choses à nous raconter quand même sur ce qui se verra là-haut. Faites-moi une description de la paillasse hein, qu'on a juste devant nous, jusqu'à un peu plus haut. Pas seulement les matières, parce que ça vous en avez parlé, mais les strates et puis quelques-unes des choses qu'on pourra manipuler.
Alors, à chaque fois, en fait, dans mes assos, quasiment, hein, pour chaque installation, il y a ce que j'appelle mes établis, tables, retables. C'est-à-dire, en même temps, des éléments qui sont fonctionnels, qui permettent notamment de travailler des éléments, sécher des éléments, qui participent, en fait, du travail, des tables, des endroits de rassemblement, le retable, l'endroit vraiment de la représentation. Après, ces établis tables retables reprennent toujours vie différemment selon les contextes. Là, par exemple, en parallèle, j'ai une exposition aux Archives nationales. Ces établis tables retables sont avec des meubles, notamment de Boulle, de Rissner. Quand je travaille à l'agrocampus, ce sont des tables d'école classiques qui vont être la base de ces établis tables retables. Et puis là, étant dans une ancienne faculté des sciences et faculté dentaire, effectivement, c'est une paillasse scientifique qui fait la base de cet établis tables retables. Établis tables retables qui sont des pièces qui sont avec des structures qui permettent des suspensions, une élévation. En fait, la table quitte l'horizontale pour passer à la verticale. Et donc là, il y a une structure comme un portique sur lequel viennent se mêler différentes variétés de bois, notamment du sol de pleureur tortueux, du merisier, du charme. Je parle sur du sophora pleureur du Japon. Que vois-je sinon il y a du bambou. Il y a des bois flottés de forêt. Pour les bois, il y a une écorce de, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais d'eucalyptus, du lierre, il y aura du houx, il y aura de l'asparagus, il y aura des fleurs, différentes fleurs, vous verrez tout à l'heure quand on va passer à l'atelier, vous verrez quelques fleurs, il y en a des milliers là-haut en fait qui attendent de trouver ou non place, des coquillages, des insectes, notamment des papillons, quelques bris de mammifères, au bout de mammifères, donc il y a des ailes, il y a un ange qui prend son envol, un ange qui lui a été créé en 2016 pour la Mirande, pour le Festival d'Avignon. Et puis si vous levez la tête, en fait, cette structure est reliée et part, s'envole dans la cave d'escalier, en fait, de l'hôtel Pasteur.
Et vous avez laissé de côté, évidemment, tous ces lacs et entre lacs de fil de pêche.
Le fil de nylon. En fait, c'est le fil de nylon. Je suis un peu pêcheur. Le fil de nylon relie cette table aussi en fait au tableau des clés de l'ancienne faculté des sciences jusqu'à l'entrée en fait une sorte de ciel par-dessus une sorte de d'étoile d'explosion sur lequel aussi vont venir différents éléments. Il y aura déjà une bave mercredi, en fait, elle va s'amplifier jusqu'à dimanche, peut-être après.
On retrouve Johnny Le Bigot un peu plus haut, un peu plus près du plafond de l'hôtel Pasteur. Peut-être pas tout à fait au dernier étage, mais voilà, on va monter l'escalier et on se retrouve dans quelques instants.
Ce ne sont pas les anges qui manquent, il y en a des avalanches. Forêt d'anges. Et forêts vierges, forêts en fuite sous le vent, forêts d'oiseaux saisis de gel. Ils ont abandonné leurs ailes, forêts d'anges saisis de gel. Ce ne sont pas les anges qui manquent. Ce ne sont pas les anges qui manquent, il y en a des avalanches, des grappes et des processions, des charrois, des pèlerinages, des chasses, des bonds et des écarts, des envols brusques de perdreaux, des envols d'anges et d'oiseaux. Ce ne sont pas les anges qui manquent. des fuites à travers les herbes, de grands déboulés de galop, des engorgements de troupeaux. Il frappe du front aux fenêtres des mondes chauds. Il frappe du front aux fenêtres des mondes chauds. Ce ne sont pas les anges qui manquent. Il y en a des avalanches. Il y en a, il y en a. Il y en a des avalanches.
Je suis maintenant dans un espace que vous ne verrez pas hein, pendant toute la présence de cette installation « Quand ça ne finit jamais, où ça commence » de Johnny Le Bigot. On est dans une des pièces du deuxième étage de l'Hôtel Pasteur. C'est carrément la caverne d'Ali Baba. Il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Par terre, sur une table, sur les établis paillasses, là, ici, vestige de l'Hôtel Pasteur, quand c'était encore une université dentaire. Johnny, venez par ici et dites-moi que vous avez un hangar de 500 mètres carrés à Paris pour stocker tout ça. Ou comment vous faites pour stocker tout ça quand vous ne l'utilisez pas ?
Là, c'est une petite part du fond de matière hein, de mon atelier, dont je n'ai pas un hangar à Paris. J'ai un atelier de 40 mètres carrés, mais j'ai un autre atelier, en fait, dans le cadre de ma résidence à l'agrocampus de Saint-Germain. Et puis, je stocke en partie en Bourgogne pour du coup des plus gros matériaux et d'autres matières. Mais donc, effectivement, j'ai des centaines de boîtes remplies de matières végétales, minérales, animales, de boîtes de cajots, de cartons. Tout étant relativement classé par catégorie, par type, par sous-section, ce qui me permet ensuite de pouvoir alimenter les installations.
On imagine quand vous partez en balade à la campagne, on ne savait jamais pour combien de temps vous en avez en fait. Vous partez pour 10 minutes et au bout de 3 heures, vous revenez avec des sacs sur le dos.
Je ne coupe pas en fait de mon propre chef des éléments ou je n'arrache pas des éléments. Je travaille quand même beaucoup avec des jardiniers ou avec des paysans ou avec des paysagistes, des élagueurs. Ensuite, il y a aussi ce qui est dans mon assiette. Si je mange par exemple une sole, il y a de grandes chances, de grands risques qu'elle ne finisse ensuite ou qu'elle poursuive en fait son temps dans les airs. Voilà, donc après ça peut être en ville, dans une rue, ça peut être dans les jardins aussi, citadins. Et puis après il va y avoir des échos. Là, par exemple, je vais ramener vraiment des variétés, notamment en écho au Tabor, à des variétés du Tabor.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de roses qu'ailleurs ?
Oui, alors j'utilise beaucoup de roses, mais surtout des roses trémières. Voilà, qu'on trouvera. Il y a un peu d'hortensia aussi. Je vais par exemple ramener des branches de séquoia. Il y a un très beau séquoia au Tabor, un séquoia à feuilles d'ifs. J'aime beaucoup aussi l'idée, en fait, aux aiguilles d'ifs, l'idée que les arbres se prennent pour d'autres. Et en fait, c'est un peu aussi la passion des bulleurs, mais on retrouve ça dans cette collection avec des arbres à feuilles 2.
C'est une installation qui est qualifiée de merveilleuse, mais j'ai pas de peine à croire qu'elle le sera, cette installation, avec des compositions aussi bien végétales, animales. Parce qu'il en reste, évidemment, il n'y aura pas d'animal vivant ici. Alors peut-être si, mais des tout petits, des petites bactéries peut-être qui vont se balader.
Après, il y a des insectes possiblement. Si une abeille veut rentrer ou une guêpe veut rentrer, elle pourra rentrer dans l'installation. Une araignée aussi. Ça dépend des durées en fait des installations. En effet, quand les installations sont sur plus d'une année, ça arrive que les araignées se mêlent aux pièces.
Par ailleurs, vous participez aussi à d'autres activités. Aussi bien la sculpture et puis les cartes blanches qu'on vous donne aussi. Vous avez travaillé avec un ami peintre et décorateur de cinéma. Est-ce que maintenant certains réalisateurs, décorateurs viennent s'adresser à vous directement pour le cinéma ou c'est pas forcément le cas
Non, sur le cinéma, c'est pas forcément le cas. Et parfois un peu, hein, on dirait un peu du genre du court et mode. J'ai fait des installations pour pour de la haute couture. Après, j'ai une installation dans un restaurant étoilé à Paris, un chef japonais, Yoshitaka Takayanagi, la Saint-Hélène, à côté de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, après, il y a une grande diversité, mais après le cinéma, why not, mais il n'y a pas eu de recontact après. C'était vraiment dans une... Bon, après, ça fait... Cette histoire, elle date de 2008, ça fait passer beaucoup de temps. Alors, je fais beaucoup de scénographie. Il y en a une, notamment, qui sera présente à Avignon, cette fois-ci dans le off, au 11, à Avignon, dans la grande salle du 11. Là, c'est avec c'est une pièce de Aline César, la mise en scène au texte, et puis avec Yann Péchin, je ne sais pas si vous voyez, Yann Péchin, guitariste de Fontaine notamment, de Bachung, de Rajtak, etc. Et puis Véronique Sacri, une comédienne notamment de Jupiter Brook, Amène Madani, voilà. Ça se joue à Avignon. Voilà. Et puis il y a d'autres. J'ai fait une sculpture aussi pour une musicienne, Sylvaine Hélary, flûtiste, qui va jouer à Cluny, par exemple, cet été. Elle joue avec cette sculpture La Compagne. Je fais des coiffes. Donc il y a une Caterina Baronet qui va jouer à Avignon, elle aussi, dans un très beau jardin à Gradon, avec cette coiffe, etc. L'année est assez pleine, en effet.
Vous retrouvez cette installation, quand ça ne finit jamais où ça commence, par Johnny Le Bigot, eh bien, du 5 au 8 juillet, 17h-19h et 20h-22h. Peut-être qu'on va retourner faire un tour à l'étage en dessous, on verra. Arriver Johnny Le Bigot avec ce qu'on pourrait prendre pour des cannes à pêche, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Certes, il y a du fil de pêche. Johnny active une marionnette. Alors, on dirait presque les pattes avant d'un cerf, comme ça, qui avancerait avec ses deux branches menées par Johnny, qui lui-même a une sorte de perche en forme de fourche, comme ça, avec des fils à chaque bout, et puis qui font avancer ces deux branches, qui sont même capables de marcher hein, dans des escaliers. Là, je les vois monter les escaliers, ces deux branches-là. C'est un cerf.
Non, après, moi, je n'arrête pas de définition sur une chose. C'est une chose Donc chacun voit, voilà, ce que je peux vous dire, que voilà, cette marionnette, elle est avec trois fourches de merisier, comme les fourches que l'on faisait quand j'étais petit pour aller couper l'herbe, pour les lapins notamment, pour les lapins ou pour les autres, pour faire le foin en fait. Voilà, donc ces trois fourches en fait qui se mettent à marcher. Et puis je vais vous montrer une autre, encore d'un autre type.
Johnny Le Bigot est à 20 mètres de moi et il va manipuler une autre marionnette. Celle-ci, je serais bien en peine d'imaginer quel animal ça pourrait être, mais c'est un animal qui se déplacerait de manière très lente, un peu incertaine, un peu hésitante, comme si c'était un animal un peu timide qui venait vers nous. Ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde ces branches comme ça, ça a l'air vivant, véritablement. Ça se déplace presque toujours de la même façon, d'un pas à l'autre. Mais ça, c'est la science de celui qui disait il y a quelques secondes qu'il n'était pas marionnettiste. Hein. C'est quoi cet arbre-là, Johnny ? Du bambou ?
Du bambou, oui. C'est deux variétés, c'est deux bambous différents. Donc, il y aura quatre variétés de bambous différents, en fait. C'est aussi ce qui est fascinant, en fait, dans les variétés. Même si vous prenez des chênes, il y a X variétés de chênes. En plus, chaque chêne va avoir sa propre particularité. Mais là, donc, c'est deux variétés de bambous qui viennent de Saint-Germain l'un et l'autre.
Les enfants qui vont voir ce que vous montrez ici à l'Hôtel Pasteur avec Quand ça ne finit jamais, où ça commence, ils vont tous vouloir faire la même chose chez eux en entrant.
Alors, bon courage aux parents. Il faut faire qu'ils jouent une nouvelle pièce. Effectivement, il y a souvent... Mais en fait, les enfants le font déjà, de ramasser. Donc en fait, encore une fois, il y a vraiment ce geste d'enfance, de retrouver l'enfance. Alors peut-être avec une chose, effectivement, d'une élaboration, en fait, et d'une construction. Mais je mets beaucoup dans les pas de Paul Klee là-dessus, de retrouver une part d'enfance, pas essayer de la singer, mais d'essayer d'y être encore ancré, en tout cas d'avoir ce souci-là, cette question-là, et de ne pas forcer non plus l'enfance, en fait. Il y a cette place. Ce qui peut être compliqué, c'est comment l'enfant, on lui laisse cet espace-là de rêverie encore, qu'on essaie de ne pas guider. En tout cas, dans ce travail, c'est pour ça que les pièces ne sont... Alors, elles ont des noms à chaque fois, elles finissent par avoir des noms, mais souvent, ce sont des noms qui ne les arrêtent pas sémantiquement, si vous voulez. Alors après, bien sûr, moi... sur les pièces, j'y vois des choses pour parler de phasme, notamment pour certaines, je ne l'appellerai pas phasme, par exemple. Peut-être que je lui donnerai un petit nom qui va renvoyer à un type particulier de phasme. On pourrait peut-être l'appeler bâton, qui permettrait en même temps de faire référence à la matérialité de la marionnette, et puis, bien sûr, le haut phasme bâton. Mais... ça restera pluriel, en tous les cas.
On n'a pas parlé de tous les noms comme ça que Johnny de Lovigo invente, mais il y en a quelques-uns. Peut-être vous pourrez le croiser et lui demander comment s'appelle telle ou telle espèce. Vous retrouvez toute la programmation sur lestombeesdelanuit.com. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci à Canal B.
Retrouverez l'installation « Quand ça ne finit jamais, où ça commence » de Johnny Lebigo à l'Hôtel Pasteur du 5 au 8 juillet. C'est lui qui sélectionnait les quelques titres musicaux qu'on entendait pendant cette discussion. Tout à l'heure, « Le brin d'herbe » par Brigitte Fontaine. Puis nous avons entendu « La chute des anges » d'après un texte de Jean Giono par Hélène Martin. Et à l'instant, c'était « Les frisolis » par Sylvaine Hélary. À suivre, un extrait de l'opéra Le Couronnement de Poppée par Claudio Monteverdi, et on parlera avec Gaëtan Libertio de Wall of Fame, à découvrir à l'Opéra de Rennes du 5 au 13 juillet. Oh, no. entendiez à l'instant sur Canal B un extrait d'une pièce de Monteverdi, du couronnement de Poppée, précisément pour Timiro, que peut-être vous allez pouvoir chanter, et oui, sur la scène de l'opéra, chanceux que vous êtes, alors peut-être d'une manière un peu étonnante, nouvelle, du 5 juillet au 13 juillet, le studio Superbe vient de Namur à Rennes pour vous proposer de faire partie de ce Wall of Fame et puis de chanter de l'opéra. On va en parler avec Gaëtan Libertio, bonjour.
Bonjour.
De ce même studio Superbe qu'on connaît un peu à Rennes pour l'avoir vu à plusieurs reprises en 2018 et puis encore plus longtemps peut-être pour le Mégaparc si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Là, j'ai plus l'année en tête, mais ça remonte un peu, effectivement. On est venu plusieurs fois. Hein. Notre tout premier projet de création a été accueilli en 2010. Déjà, c'était la première fois qu'on venait à Rennes. Et puis, depuis, on a régulièrement été accueillis ici et souvent tombé de la nuit ou alors à des organisations connexes à d'autres moments. Et effectivement, le Mégaparc et la chorale Sming, qui était aussi un projet lié à la musique et qu'on a aussi présenté sur la scène de l'Opéra de Rennes en 2019.
Vous ne le découvrez pas, hein, cet Opéra de Rennes, pour venir y proposer donc ce Wall of Fame qui nous propose une rencontre entre le chant lyrique et l'intelligence artificielle. Comment elle est née, cette proposition-là ? Déjà avec Sming auparavant ?
Alors oui, sans doute, c'est toujours un peu un cheminement et des rebonds entre différents projets. Il y a un peu de ça dans Sming, mais en même temps, ici, il y a un pas de côté, un décalage qui est un peu plus grand, qui est un peu plus, on va dire, surprenant et farfelu. Dans le sens où là, on utilise une technique qui s'appelle la technique du deepfake. C'est en fait falsifier une image.
Normalement, on le fait plutôt avec Donald Trump ou Jair Bolsonaro, des présidents, hommes très 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 importants. Et là, ce sera n'importe qui va pouvoir être transformé.
C'est ça. Donc on a adapté ce genre de procédé pour le proposer dans une interaction assez rapide où on prend une photo et sur base de cette photo, on va la transformer. Former et l'animer quelque part et lui faire chanter de l'opéra.
Ça s'adresse à des gens qui ne sont pas chanteurs d'opéra, d'abord, parce que ce serait
surtout
trop facile
même
pour des chanteurs d'opéra, j'imagine, de venir faire semblant de l'être alors qu'ils le sont vraiment. Là, on va pouvoir se balader donc dans un répertoire plutôt d'opéra classique. Vous l'avez fait dans les premières fois, ce Wall of Fame, avec quel type de répertoire ?
Alors, c'est jamais que la deuxième fois qu'on propose ce dispositif. Et la première fois, effectivement, on était plus dans un registre de variété. Donc là, on avait plutôt des chansons issues de la variété française, Chelas, Navour, Bruel. C'était sur une scène belge au Forum de Liège, qui est une scène qui accueille ce type de chanteur dans sa programmation. On aime s'adapter au lieu et à ce qu'il propose. Donc c'est un travail qui permet ça et qui permet la surprise et d'être en lien avec cette programmation, quoi.
Ça commence, hein, le Wall of Fame pour Studio Superbe pendant les tombées de la nuit. Le 5 juillet, ça se finira le 13 juillet. C'est à raison de séances assez longues, hein, 14h, 19h tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi. Comment ça se passe dans les fêtes ? On vient, on s'inscrit et puis qu'est-ce qui va se passer avant qu'on puisse voir son visage et se voir chanter alors qu'on n'a même pas pris de vidéo, peut-être,
j'ai l'impression. C'est ça. Non, tout à fait. Il suffit de franchir la porte d'entrée de l'opéra. Et là, vous serez accueillis. Il y a un studio photo qui est installé. Et là, chacun à son tour, vous pourrez être pris en photo. Et ensuite, vous dirigez dans la grande salle de l'opéra, vous asseoir et contempler ce qui s'y passe. Et vous, à un moment donné, vous vous verrez passer dans les minutes qui suivent. C'est difficile d'être précis. C'est pas c'est pas instantané, mais presque. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc rentrer dans l'opéra, se faire prendre en photo, puis se diriger vers la grande salle et se laisser surprendre.
Moi, j'ai pu voir une vidéo, alors pas du tout sur ce dispositif qui est mis en place à Rennes, puisque c'est plutôt celui dont vous parliez juste à l'instant, qui voyait le public chanter des chansons plutôt de variété. Moi, j'ai pu voir les Rois Mages de Sheila. Et là, on voit toute une galerie de personnages, en fait. C'est un chœur entier qui chante.
C'est ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé Wall of Fame. C'est quelque part rendre hommage au public et en faire la, c'est le public la star, c'est le public la célébrité en fait. Et pour nous, c'est un peu ça la démarche, c'est de mettre les gens comme dans Sming, où en quelque part ce sont les gens qui sont mis à l'honneur, que vous soyez musicien ou pas musicien, chanteur d'opéra ou pas chanteur d'opéra, au final ça s'adresse à tout le monde. Et l'idée c'est de mettre les gens à l'honneur et le concept Wall of Fame, c'est de le faire d'une manière décalée.
Encore un petit peu d'opéra dans cette émission spéciale sur les tombées de la nuit 2023. On parle avec Gaëtan Libertio de Studio Superbe à propos de Wall of Fame, dont vous aurez l'occasion d'être vous-même le héros. Hein, c'est un peu une installation interactive dont vous êtes les héros qui seront montrés, ces écrans-là sur lesquels vous apparaîtrez en train de chanter de l'opéra. Alors, de l'opéra de Puccini, de Berlioz, de Monteverdi, comme on écoutait juste à l'instant. Une sélection qui a été faite de ces pièces d'opéra par l'opéra. Comment ça s'est passé, Gaëtan ?
C'est ça, c'était au tout début du projet, avec Mathieu, le directeur de l'opéra, on a discuté du projet. Nous, on est à l'écoute de ce qui se passe dans le lieu et l'envie était d'être en lien avec la programmation de l'opéra. Et donc, c'est l'opéra qui a proposé les morceaux que nous, derrière, du coup, on a travaillé. Et qu'on a préparé pour rendre possible ce dispositif.
À l'origine de la création de Studio Superbe, il y avait déjà cette envie de mélanger spectacle vivant et puis design, nouvelles technologies, virtualité.
Complètement. Alors moi, un spectacle vivant au départ, ça, c'est quelque chose qui est en train de venir, qui est venu petit à petit dans la rencontre avec le public. On a notre premier dispositif est un dispositif en lien avec la musique aussi. C'était une machine à beatbox, donc principalement basée sur le rythme et la voix. Et puis ça a été pour nous une contamination assez fulgurante de voir le public hilar, s'amuser, faire de la musique et voilà, c'était hyper satisfaisant pour nous. Et donc on ne s'est plus arrêté derrière, on a continué à proposer des dispositifs à la fois pas toujours musicaux mais toujours quelque part surprenants et avec cette envie de contaminer quelque part par la joie, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, hein, on les appelait comme ça il y a une vingtaine d'années, mais bon, voilà, on va continuer d'utiliser ce terme-là, le deepfake, l'intelligence artificielle, ça fait un peu frémir, ça fait un peu peur. On se dit, oh, mais je ne pensais pas que cette photo du pape, c'était pas une vraie photo et qu'il portait pas vraiment une doudoune avec des bagues, mais que c'était fabriqué par une intelligence artificielle, ou alors que cette vidéo de tel homme ou femme politique, oui, je crois que c'était vrai. Est-ce que c'est aussi pour reconsidérer cette proposition de technologie moderne, on va dire, et se dire que finalement, on peut beaucoup aussi s'en amuser.
Complètement. Je crois que c'est se la réapproprier, en fait. C'est se l'approprier pour en faire quelque chose de drôle. Parce qu'effectivement, les gens aiment faire peur. Et je pense que ceux qui maîtrisent aiment garder l'exclusivité de la maîtrise. C'est souvent le cas. Et souvent le cas avec les nouvelles technologies. Je pense que quand les studios de cinéma ont sorti des décors affolants sur le plan du réalisme dans les années... je vais dire une connerie si je nomme des années, mais voilà, les gens avaient peur de ça et se disaient, mais oulala, mais si ça commençait là. Et en fait, je pense que juste qu'on manque un tout petit peu de recul aujourd'hui par rapport à ça, et surtout je pense qu'on galvaude un peu ce que c'est en appelant ça une intelligence. Ça reste du code, de l'informatique et de la programmation qui qui derrière dépendent de gens qui orientent cette façon de travailler et de considérer une intelligence entre guillemets. Parce que, voilà.
En tout cas, c'est sûr que sans les intelligences humaines qui sont à la base de cette création de Wall of Fame, ça n'existe pas forcément, c'est sûr. Ça va se mettre en place, je le disais, hein, ce 5 juillet jusqu'au 13 juillet. C'est le début pour le Wall of Fame. C'est quoi l'idée la plus folle que vous avez pour prolonger cette aventure ?
Bah, l'envie, c'est de lui donner de l'ampleur, effectivement. Au départ, on n'avait pas nécessairement imaginé ça sur scène. Donc voilà, mais c'est très bien et c'est comme ça que le projet a débuté. On a des envies un peu scénaristiques avec, j'ai envie de dire, de surprises, d'être parfois moins dans le rapport frontal avec une scène, mais plus dans la surprise d'un dispositif immersif qui en fait ne se dévoile que dans un deuxième temps. Ici, on s'attend quelque part à ce qui va se passer et on s'attend en tout cas à ce qui est de la musique et à se voir sur scène. Je crois que l'avenir de Wall of Fame sera peut-être de se retrouver dans d'autres contextes, sur des murs, où on n'a pas spécialement l'habitude de voir de la musique débarquer.
N'ayez pas peur que ça puisse, ça, à nouveau, faire peur aux spectateurs qui se diraient « Ah, déjà, on me prend mon image avec des drones, déjà, on veut me prendre mon image quand je vais rentrer dans des supermarchés. » Et là, je pense...
c'est déjà le cas. Et simplement, je pense qu'on n'en a pas toujours conscience. Mais c'est déjà à l'œuvre, c'est déjà le cas. Ici, forcément, on détourne ça de manière drôle, mais c'est sûr que donc faire peur, non, je crois pas, notre objectif, c'est de faire sourire et de faire rire.
Eh bien, j'espère que vous irez vous faire prendre le portrait et puis que vous serez épaté de vous voir transformé en chanteur d'opéra, en chanteuse d'opéra. C'est, je le rappelle, du 5 au 13 juillet. C'est sur des longues périodes de 4-5 heures, du lundi au vendredi, du samedi au dimanche. Retrouvez toutes les infos sur lestombeesdelanuit.com. Merci Gaëtan Libertio. On se reverra sans doute prochainement ou dans un autre cadre du Festival des Tombées de la Nuit, puisque quand même vous y venez assez souvent.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. On écoute encore un petit peu, tiens, de ce fameux couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi.
Alors moi c'est Nolwenn Ferry, chorégraphe et danseuse de la compagnie Roary.
Et moi, c'est Pauline Sonic, et je suis également co-chorégraphe avec Nolwenn.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette compagnie ?
Alors, l'histoire de cette compagnie est née au CNDC d'Angers, le Centre National de Danse Contemporaine. On a fait nos études là-bas, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, en 2015. À la suite de ces études, on a créé une première pièce qui s'appelle « Safe Zone », qu'on tourne encore, et qui questionne les codes et les valeurs du fest-noz. C'est une envie qui est née pendant les études, lorsqu'on se questionnait sur nos racines et plus particulièrement sur notre lien au patrimoine culturel qui nous a été transmis.
Vous venez aujourd'hui présenter votre spectacle qui s'appelle Barès. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ?
Alors Barès, c'est un trio qui dure 25-30 minutes et qui se joue exclusivement dans les bars et les bistrots. Et Barès en fait est tiré de notre deuxième création, Distro, qui veut dire le retour en breton. Et Distro, c'est un duo qu'on joue en rue et en salle. Et donc Barès est tiré de la matière chorégraphique de Distro. Et l'idée, c'était vraiment d'aller investir les bars et les bistrots pour ramener de la danse aux gens, aux habitués des bars, et en même temps de ramener aussi les gens à venir voir la forme d'Istro qui se joue quelques jours après.
On a créé Safe Zone pour s'intéresser à ce qui rassemble les gens, notamment dans les Fest-Noz, et dans lequel on s'est intéressé à pourquoi en fait les gens de toute génération et de toute classe sociale se mélangent dans les Fest-Noz. Et donc c'est un peu dans cette lignée qu'on s'est intéressé aux bars, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains bars, qui nous paraissent pour nous authentiques, on retrouve aussi ce mélange de générations et de classes sociales. Donc c'est un peu une suite de notre première pièce.
On a l'habitude aussi de se retrouver dans certains bars, pour faire la fête, mais aussi pour débriefer sur les spectacles. C'est là qu'on a créé la compagnie aussi, administrativement. Et en fait, on s'est rendu compte, en fréquentant ces bars, qu'effectivement, il y avait une ambiance particulière et les gens ils venaient après le travail pour se détendre, pour rencontrer des gens. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une source vraiment hyper intéressante au niveau des mouvements, des relations. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une pièce là-dessus.
On a fait une tournée des bars de Bretagne en camion aménagé et on s'est inspiré d'un bouquin qui s'appelle Bistro Braise. C'est une bande d'amis cyclistes qui ont fait le tour, en 3 tomes d'ailleurs, le tour de Bretagne à vélo, et ils ont recensé dans 3 livres la plupart des bars ruraux qu'ils ont croisés. On s'est tracé un itinéraire et puis on est allé visiter ces lieux-là. La plupart avaient fermé. Donc on a improvisé, on en a fait d'autres. Et on est allé à la fois dans des grosses institutions comme la Taverne à Rouet-Morvan à Lorient ou la Glycine à Guingamp. Mais on est surtout allé dans des bars vraiment ruraux de tout petits villages. Donc on s'est inspiré, on a récolté des témoignages, on a récolté des sons, on a observé beaucoup les gens. Comment ils se déplacent, comment ils interagissent entre eux, et aussi comment évolue l'état de corps au fur et à mesure de la soirée, au fur et à mesure du temps qui passe. On a rencontré aussi beaucoup de personnes là-bas qui nous ont inspirés. Et donc en fait, après on a commencé les résidences avec nos partenaires dans des théâtres, mais on a continué aussi les résidences dans les bistrots pour rester au plus proche de ce qui se fait dans la réalité.
C'est vrai que pour nous, c'est assez important de vraiment rester au cœur du sujet. Donc dans The Safe Zone, on a fait une tournée des Fest-Noz pour vraiment aller voir sur le terrain ce qui se passait. Et donc pour Distro, des bars, parce que pour nous, c'est vraiment primordial de vivre des expériences humaines avant tout, pour vraiment le retranscrire nous deux avec de la chorégraphie sur un plateau ou dehors. C'est vrai que quand on a fait la tournée des bars, il y a beaucoup de bars qui ont fermé. C'était après le Covid, donc peut-être que c'est aussi la crise. Mais c'est aussi que les tenancières et tenanciers, à un moment, ils partent en retraite ou ils décèdent. Et il n'y a pas forcément de jeunes qui veulent aller dans les petits villages pour reprendre des petits rades. Il y a 4-5 personnes dans les bars. Donc pour nous, c'était vraiment une question de comment rendre hommage à ces bars-là pour pas qu'on les oublie. Parce que c'est quand même des lieux de relations sociales et de rencontres qui sont hyper importants pour certaines personnes isolées. La plupart des bars disparaissent, donc c'est pour aussi inciter les jeunes à reprendre des petits bars, à réinventer les choses pour qu'ils continuent de perdurer dans le temps, quoi.
Oui, puis aussi d'amener de la danse dans les bars, ça se fait très peu. Il y a beaucoup de musique, il y a de plus en plus de théâtre d'impro, mais de la danse, de par la contrainte spatiale aussi, c'est un peu moins commun. Donc c'était aussi une envie de créer quelque chose d'un peu nouveau et ramener du corps, voilà, du corps, du toucher, des interactions. La compagnie, on l'a créée en 2018 dans l'idée d'ouvrir notre danse à un maximum de monde et dans un maximum d'endroits variés, parce qu'en fait, ça nous manquait à l'époque. Mais je pense que maintenant, la danse contemporaine s'ouvre beaucoup, notamment grâce au hip-hop aussi. Je trouve que ça s'est démocratisé et les théâtres ouvrent leurs portes à l'extérieur, donc ça rend oui la danse contemporaine beaucoup plus accessible. Et aussi la danse contemporaine s'ouvre à d'autres pratiques. Maintenant on voit des compagnies qui mélangent cirque et danse, hip-hop, flamenco, et aussi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague là de chorégraphes qui proposent des choses beaucoup plus physiques et beaucoup plus dans le corps. Quand on a commencé la compagnie, on était beaucoup sur le processus de création prime sur le résultat, ce qui fait que aussi t'as pas les clés, et ben c'est compliqué de te sentir intégré en fait à cette démarche et au spectacle. Alors que maintenant c'est beaucoup plus dans le corps, et le corps c'est universel, donc en fait c'est... Il y a quelque chose de plus généreux, enfin selon moi, de plus généreux et de plus accessible.
Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de formes participatives qui sont mises en place. Et rien que ça, en fait, en tant que public, de sentir que, bah voilà, à la fin du spectacle, tu vas faire une danse, ou en fait, le spectacle, bah, t'es aussi dedans parce qu'on te demande de faire des choses. Je pense que ça, c'est aussi inverse les rôles de une création chorégraphique où, bah, tu comprends pas, il y a quatre quatrième mur, un truc où tu te sens très exclu. Alors que là, en ce moment, bah. Le public est de moins en moins juste sur sa chaise en train de regarder, mais on pense à comment on met le public dans l'espace pour que ça casse ses codes.
On a eu l'occasion aussi de l'expérimenter cet été à Guingamp, avec une version pour les terrasses. Donc on avait donné un atelier de 3 heures et puis ensuite on est venu, cette fois-ci c'était en mode impromptu, donc sans prévenir personne, on est venu investir les terrasses par la danse. Là c'était un peu la même idée. La pièce elle existe cependant à 3, mais c'est vrai que dès qu'on peut l'ouvrir un petit peu à des gens qui demandent que ça, ou même à la population enfin, en général, nous on est toujours ouverte hein, pour... Ça crée des nouvelles expériences, c'est chouette. Ça raconte autre chose aussi.
Et c'était des personnes qui connaissaient déjà la danse ? À Guingamp, il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient déjà fait de la danse, des gens, c'était la première fois. Donc voilà, c'est aussi comment mélanger les âges, les univers.
La chorégraphie, elle est très écrite. Il y a peu de place à l'improvisation, bien qu'il y en ait un petit peu quand même. On a un système d'écriture qui peut être adapté en fonction de chaque lieu. Dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de déambulation. Il y a beaucoup d'interactions aussi. En fait, on adapte les déplacements en fonction du lieu. Par exemple, on avait fait une sortie de résidence à Plouermel où le bar était tout en longueur. Donc l'enjeu, c'était comment on gère notre espace pour qu'en fait, tout le monde ait à un moment accès à la danse, au corps, et que tout le monde se sent quand même pris dans le jeu. Et des fois, on a des espaces, notamment à Pimpon, où en fait il y avait trop de monde, il y a eu énormément de monde. C'était la réouverture du bar après les vacances de la patronne. Et donc en fait on s'est retrouvé avec un 2 mètres sur 3. Donc on a tout fait en cercle, en adaptant. L'idée d'une prochaine pièce qui sera pour 2025. Et là, on s'intéresse plutôt au skatepark et à la communauté de skateurs et de skateuses d'ailleurs. Et comment on peut faire le lien entre la danse et le skateboard, toujours par le biais d'une approche réflexive par la culture bretonne, de la culture bretonne. Et notamment en faisant le lien avec nos grands-parents qui étaient interdits de parler breton. Et comme les skateurs sont souvent interdits de skater dans les lieux publics, donc voilà, c'est comment on fait en tant que jeune et moins jeune pour contourner les règles dans le but de continuer en fait à vivre nos passions, nos projets et de créer des choses qui rassemblent. Ce qu'on peut dire, c'est d'inviter le maximum de monde à aller à la fois au spectacle, à la fois à faire des balles, à s'intéresser aux racines, à ce qui fait qu'on est nous, et à danser, à aller dans les bars pour rencontrer des gens, pour créer, pour imaginer des projets. Car comme Balzac disait si bien, le comptoir est le parlement du peuple. Merci.
Merci à Pauline et Nolwenn de la compagnie Roary pour ce reportage. En illustration sonore, c'était Danse Ficelle de Fleuve et c'était un choix de Pauline et Nolwenn.
Vous entendiez à l'instant la rediffusion d'un reportage qu'avait proposé Elvire dans l'émission Crème de la Crème. C'était au tout début du mois de février lors du passage de la compagnie Roary au festival Waterproof. Retrouver la compagnie Roary à plusieurs reprises pendant les tombées de la nuit. Ça sera en bistrot ce mercredi 5 juillet au Tiana à 13h et à 17h. Elles proposeront également les spectacles Distro et Tsef Zone pendant les tombées de la nuit. Et ça, ce sera jeudi et vendredi. Cette première émission spéciale Tombée de la Nuit 2023 sur Canal B se termine avec DJ Marc Larnac que vous retrouverez au Grand 8. C'est quoi le Grand 8 ? Eh bien, c'est ce futur parc d'attractions permanent au 20 rue Pierre Martin, soit en face de l'école maternelle Kinleu. Et c'est le QG festif des Tombées de la Nuit en soirée où vous retrouverez les programmations I Am From La Nuit. DJ Marc Larnac y sera jeudi soir à 20h jusqu'à 21h, puis à 21h45 jusqu'à 23h. On l'écoute avec le titre Trouble Thoughts et attendez-vous à danser sur des sélections groove, hip-hop, électro, disco grâce à Marc Larnac. On retrouvera une émission spéciale Tombée de la Nuit 2023 sur Canal B jeudi de midi à 13h et puis vous retrouverez ça aussi bien sûr en podcast sur canalb.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures. Retrouvez toutes les infos autour du festival Les Tombées de la Nuit sur lestombeesdelanuit.com. Ciao.